du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un gros sport en derrière. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Et il est 19h02 sur la plus rebelle des radios, c'est 102.2 FM, évidemment, Radio Canu. Radio Canu, un vendredi. Radio Canu, un vendredi, c'est quoi? C'est le journal, c'est les infos, c'est le Canu Info du vendredi. De quoi allons-nous parler ce soir?
Bah, on va parler de l'action contre l'ISSEP et l'offensive transphobe.
Ensuite, donc ça c'est dans la rubrique info locale, on vous parlera aussi d'un flic qui est maintenant en poste à Lyon, c'est même le chef de la police locale, qui était poursuivi suite à la mort de Steve à Nantes il y a 5 ans, et ce flic a été relaxé.
Toujours dans la rubrique locale, perfluoré, Arkema va pouvoir agrandir son usine dans la vallée de la chimie.
Et puis ensuite, on passera à la question migratoire. On vous parlera encore de France, mais pas que, parce que c'est la merde un peu partout. Il y a toujours plus de morts et de répression des migrants et migrantes en Europe.
Ensuite, grand sujet national, la guerre coloniale qui continue à Kanaky.
Absolument. Ensuite, à la question internationale, on s'interrogera sur les liens de Sao Paulo jusqu'à Lyon entre les Françaises, les polices françaises et brésiliennes, et notamment leurs milices les plus violentes qui travaillent main dans la main.
Et pour ensuite continuer avec notre agenda comme d'habitude.
L'agenda comme d'habitude, et puis toujours le Canu Information du vendredi sur Radio Canu. Vous connaissez, on ne sait toujours pas ce que veut dire ACAB ou ACAB. Si vous savez ce que ça veut dire, évidemment, on décroche son téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le 04 78 39 18 15. En attendant, c'est parti pour une page d'information.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève
qu'on a dit à les interjouer
pendant la masse du rassemblement pour le
climat et l'environnement
de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et oui, dans une rubrique locale, on commence par une petite brève trouvée sur le site d'info qu'on adore, rebidion.info. qui parle de l'ISSEP ou ISSSEP, on ne sait pas très bien comment le prononcer, enfin en tout cas l'Institut de formation cofondé par Marion Maréchal Le Pen il y a 6 ans, en 2018, qui est destiné à former des cadres de l'extrême droite. Et il recevait le 19, c'est hier, hein, l'autrice transphobe Marguerite Stern pour une conférence intitulée, attention, je cite, « Comment l'idéologie transgenre détruit des vies ». Cette conférence prend place dans un contexte d'offensive médiatique et légale contre le droit des personnes trans, notamment contre les personnes mineures trans. Et c'est dans ce contexte, et alors que tout rassemblement à proximité de l'école susceptible de permettre de le perturber avait été interdit par la préfecture, toujours en soutien facile à l'extrême droite, que dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs actions ont visé l'ISSEP. Des tags ont été faits sur la façade et le compteur électrique de cette université, ou cet établissement, hein, c'est quand même pas une université, je suis pas d'accord avec ce petit texte, a également été incendié par ailleurs, le compteur électrique, vers 14h du mat, ce qui a coupé l'électricité du bâtiment pendant plusieurs heures. Malheureusement, précisent les personnes qui écrivent ce petit texte, pas assez pour empêcher la tenue de la conférence. Plus tôt dans la soirée, vers 23h, trois personnes ont été interpellées près de l'école. Alors évidemment, ici, on est contre la transphobie, on soutient absolument les camarades interpellés notamment, et puis pas les autres. Voilà, enfin si les autres camarades, ça n'a aucun sens ma phrase, vous avez compris, j'ai le cerveau en bouillie. Deuxième information à caractère local, la décision du tribunal correctionnel de Rennes qui a été rendue aujourd'hui. Le commissaire Chassin, donc le commissaire Chassin qui était à la tête de la circonscription de la police nationale de Lyon, désormais, il a été relaxé. Il a été relaxé dans quoi ? Eh bien, il a été relaxé de sa responsabilité dans la mort de Steve à l'occasion de la fête de la musique. Du 10 au 14 juin, il a été jugé pour homicide involontaire dans l'affaire du décès de Steve Maya Canisso en 2019 à Nantes. Il était en effet responsable des opérations qui ont entraîné la mort de ce jeune homme qui s'est noyé, rappelons-le, dans la Loire lors de la fête de la musique 2019. Il encourait une peine maximale de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Ça ne s'est pas conclu par une condamnation. Alors, quelques jours à son procès, Grégoire Chassin avait été promu à Lyon. Au cours du procès, les avocats de la partie civile ont plaidé que la mort du jeune homme serait due à l'action du commissaire Chassin. L'accusation estimait, je cite, qu'il a eu un usage disproportionné des armes, que les policiers n'avaient pas attendu l'arrivée de renfort et que le flic Chassin a voulu réaliser des interpellations alors qu'elles ne s'imposaient pas compte tenu de l'infériorité numérique et de la configuration des lieux. De son côté, la défense a rejeté toute responsabilité du commissaire et plaidé que la chute de Steve dans la Loire serait accidentelle. C'est cette version qui, de manière extrêmement surprenante, a été finalement considérée comme la plus probable par les juges. Le commissaire était le seul à comparaître dans ce procès, hein, puisque le préfet et le maire de Nantes de l'époque avaient bénéficié d'un non-lieu. Le procureur avait requis, lui, quand même, mais finalement les procs presque, une peine de principe, ce qui ne veut absolument rien dire, sans fixer de quantum. Donc ce que voudrait être cette peine, on ne va pas faire semblant d'être surpris une fois de plus. Eh bien, quand la police contribue à tuer, la justice acquitte. Et on s'écoute tout de suite un petit peu de musique.
Memory. These high évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule !
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Et oui, information locale toujours et écologie encore, alors que l'on ignore encore l'étendue et les conséquences de la pollution aux perfluorés au sud de Lyon. Les perfluorés, c'est notamment les fameux PFAS, qu'on appelle aussi parfois polluants éternels. L'industriel Arkema prévoit de construire une nouvelle usine de, je cite, PVFD, c'est un polyfluor utilisé pour les batteries de voitures. Et donc cette usine devrait être construite dans, au sud de Lyon, dans la fameuse Vallère de la Chimie. Et plusieurs associations ainsi que la ville de Pierre-Bénite ont tenté de s'y opposer à cet agrandissement par une procédure en référé devant le tribunal administratif. Vendredi 13, donc le dernier vendredi en date, il y a 8 jours, la justice a rejeté leur demande de suspension de l'arrêté préfectoral qui autorise cette expansion. Les requérants demandaient que des études d'impact soient réalisées aux frais d'Arkema et de l'État avant la construction de cette nouvelle unité. Je cite, « Il ne résulte pas des pièces du dossier que les modifications nécessiteraient une étude d'impact préalable », a estimé le tribunal administratif. Dans l'arrêté autorisant l'extension, la préfecture du Rhône estimait qu'elle n'entraînera pas d'augmentation des rejets de substances PR ou polyfluoroalkylées, les PFAS donc, pour lesquels une surveillance est prescrite à l'exploitant. Les requérants demandaient au contraire un principe de prévention et l'intervention d'une autorité indépendante pour évaluer les risques. Mais tout si leur a été refusé. On est encore une fois extrêmement étonné que finalement les tribunaux continuent de soutenir la police dans un cas, le capital dans un autre. Et ici, une entreprise qui fait des choses énormément. Donc bref, la Vallée de la Chimie n'est pas prête de perdre son surnom. Et les industriels, le droit de nous pourrir littéralement la vie.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on s'est trompé de jingle, mais c'est quand même la rubrique qui arrive.
Bon, naufrage dans la Manche, 2024, l'année la plus meurtrière à la frontière franco-britannique. C'était vraiment en juillet qu'on a recensé sur les ondes de Radio Canu 4 migrants morts dans la Manche. Ah bien, rien n'a changé entre-temps, bien le contraire. En seulement 10 jours, la Manche est devenue de nouveau le théâtre d'une nouvelle tragédie. Au moins 20 personnes ont perdu la vie en essayant de rejoindre le Royaume-Uni à bord de petites embarcations. Le mardi 3 septembre, 12 personnes, dont 10 femmes, ont péri en mer. 10 jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 septembre, 8 autres personnes ont connu le même sort tragique. En 2024, déjà 52 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre le Royaume-Uni et ce chiffre grimpe à au moins 446 depuis 1989, sans compter les nombreux disparus. Ceci n'est pas tout quand même. Les survivants, souvent proches des victimes, sont aussi laissés à eux-mêmes, abandonnés par les institutions. Il faut le dire et le redire. Ces tragédies sont le résultat des politiques migratoires sévères mises en place par les États membres de l'Union européenne et le gouvernement britannique, comme le montre une tribune publiée cette semaine par un collectif d'acteurs locaux et nationaux. Face à ces tragédies, les politiques publiques, loin d'apporter des solutions, se durcissent. Les accords entre la France et le Royaume-Uni se multiplient, renforçant le contrôle militarisé de la frontière et réprimant toujours plus les exilés qui tentent de la franchir. Les réponses à la tragédie la plus récente suivent un chemin bien trop répété. Au lendemain du drame du 3 septembre, le camp où vivaient les nombreux naufragés a été démantelé lors d'une expulsion massive. Les 150 personnes qui y résidaient, dont plusieurs rescapés du naufrage tragique de la veille, ont tout perdu, leur tente, leur couverture, leur ustensile de cuisine, mais aussi l'unique espace familier où ils pouvaient encore se retrouver et vérifier l'absence de leurs proches. Les signataires de la tribune, qui peut être consulté d'ailleurs sur le site de la CIMAD, demandent, je cite, une remise en cause profonde des politiques migratoires appliquées tant au niveau local que national et européen. La politique de la maltraitance des personnes exilées, dans la vie comme dans la mort, doit cesser immédiatement. Une politique d'accueil, de dignité, d'accès aux droits et au séjour doit s'y substituer pour permettre à celles et ceux qui souhaitent rester en France de pouvoir le faire. Le paradoxe est bien que la police matraque les migrants jour et nuit, mais il fait aussi des analyses assez fines du phénomène, comme le reconnaît pour France Télévisions un membre de la police aux frontières dans la Somme et le Pas-de-Calais. Le phénomène a pris de l'ampleur à la fin des années 2010. Il dit « Le renforcement des contrôles dans le port de Calais et le tunnel sous la Manche a rendu plus difficile l'accès à l'Angleterre via le vecteur ferroviaire et routier. » Merci, voilà une très belle autodénonciation. On écoute plutôt les associations d'aide aux migrants qui accusent l'impact de la politique répressive des autorités sur la dangerosité de traverser. Environ 1700 policiers et gendarmes sont déployés le long du littoral français et Gérard Darmanin a annoncé l'envoi de renforts supplémentaires. Cette présence accrue pousse les départs de plus en plus loin, jusqu'à Dieppe en Seine-Maritime ou la baie de Somme, explique une coordinatrice de l'association L'Auberge des migrants. La traversée plus longue expose alors les migrants à des conditions climatiques difficiles et à un risque accru de panne ou d'accident. Selon la militante, la lutte contre les réseaux de passeurs a réduit le nombre de bateaux disponibles sur le littoral. Par contre, elle n'a pas quand même découragé les candidats à la traversée. Les embarcations sont de plus en plus surchargées. En 2022 et 2023, elles transportaient en moyenne 50 à 60 personnes. Aujourd'hui, la préfecture maritime en recense entre 70 et 80, voire jusqu'à 100 par pneumatique. De l'autre côté de la Manche, le premier ministre britannique Keir Starmer se tourne vers l'extrême droite italienne pour trouver des solutions en matière d'immigration. Le premier ministre travailliste, qui s'est rendu à Rome lundi, a fait l'éloge de plusieurs aspects du plan de Giorgia Meloni pour lutter contre l'immigration. Vous avez bien entendu l'éloge du plan. Keir Starmer affirme vouloir tirer des leçons des statistiques dramatiques de l'Italie. En effet, le gouvernement italien d'extrême droite a un excellent bilan en la matière. Le pays a réussi à utiliser l'argent de l'UE pour financer le passage à tabac et le viol des migrantes par les forces de sécurité en Tunisie. De nombreuses enquêtes, dont la plus récente publiée hier, justement par The Guardian, ont montré que les agents de sécurité tunisiens sont impliqués dans des abus choquants, laissant les gens mourir dans le désert, tout en étant de connivence avec les passeurs. Une fois de plus, nous assistons non pas à une crise migratoire, mais à une crise de l'asile, de la protection et de l'accueil. Au contraire, la rhétorique d'une crise migratoire qu'on voit toujours déployée, tant au niveau politique qu'au niveau des médias, favorise la convergence de la migration avec le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Cette rhétorique véhicule l'idée que la violence aux frontières est inévitable pour contenir les menaces d'une violence envahissante venant de l'autre côté. L'Europe a certainement une approche plus réfléchie de l'immigration de nos jours, n'est-ce pas ? Ah ben bien sûr, au début du mois, le gouvernement allemand a annoncé son intention d'imposer des contrôles plus stricts à toutes les frontières terrestres du pays dans le but de lutter contre l'immigration clandestine et protéger la population contre des menaces telles que l'extrémisme islamiste. On dirait « Auf Wiedersehen, Schengen ».
Oui, c'est une rupture totale avec leur avec les politiques précédentes, y compris celles des conservateurs comme Merkel.
Et même pas avoir aucun consultation avec l'Union européenne, ils l'ont fait tout seul. Sans parler du gouvernement néerlandais, encore pire, dirigé par le parti d'extrême droite, PVV, qui a demandé à l'UE de ne pas appliquer les règles en matière d'asile il y a seulement 2 jours. Tout va bien, donc la forteresse Europe. Voilà.
Ouais, c'est toujours complètement, incroyablement raciste, les politiques migratoires en Europe. Mais l'avantage de certains pays européens, c'est qu'ils ont encore des territoires qui traitent comme des colonies dans lesquelles ils peuvent finalement développer des politiques racistes de manière extrêmement frontale. Et c'est le cas d'un petit pays dans lequel nous vivons qui s'appelle la France, puisque... On vous l'a annoncé tout à l'heure, la guerre coloniale continue en Kanaky. On n'en parle plus beaucoup hein, dans les médias dominants qui sont un petit peu omnubilés depuis 3 mois par la question de savoir qui sera bientôt ministre de l'Intérieur pour virer plus d'étrangers. Sera-ce Darmanin qui va rempiler ou Retailleau ? Nous, on s'en fout un peu, ça risque juste d'être des politiques racistes en plus. Mais en tout cas, on n'en parle plus beaucoup, mais la révolte kanak se poursuit et la répression qui va avec se poursuit surtout beaucoup plus fort que ça. Alors pour vous donner quelques chiffres, 29 escadrons de gendarmes quadrillent le territoire néo-calédonien actuellement. C'était 4 avant les événements, donc une multiplication par 5 du nombre, n'importe quoi, par 6 du nombre d'escadrons de gendarmerie présents en Kanaky. Ça veut dire environ 6000 hommes en armes avec leurs blindés Centaure que vous avez peut-être déjà vu. C'est énorme en fait, hein, ça représente sur les 119 escadrons que compte le territoire national en termes de gendarmerie, il y a un quart des gendarmes actuellement qui sont déployés en Calédonie. On dénombre aussi des morts, beaucoup de morts quand même, déjà 11 morts au moins, et près de 3000 Kanaks qui ont été interpellés. 7 prévenus ont été incarcérés en métropole hein, et répartis entre les prisons de Dijon, Mulhouse, Bourges, Blois, Nevers, Villefranche et Rion, afin de les éloigner de leurs avocats et de leurs familles et de les isoler au mépris des droits de la défense. Parmi eux, on trouve Christian Taine, le leader de la cellule des organisations des actions de terrain, le CCAT, en Nouvelle-Calédonie, qui est traité d'organisation criminelle par Yves Dupas. Yves Dupas, c'est le procureur de la République calédonien. Le groupe compte aussi une jeune mère de famille, hein, Brenda Wanabo, responsable de la communication de la CCAT. Et comme Christian Taine, elle a été par ailleurs maintenue, menottée pendant les 30 heures de vol qui l'ont amenée en métropole avant d'être incarcérée à la maison d'arrêt pour femmes de Dijon. Et visiblement, toute cette répression ne suffit pas. Ainsi, malgré le déploiement de forces, quelques dizaines d'hommes en armes tiennent toujours la route de Nouméa au Mont d'Or, hein, une route qui traverse le territoire coutumier de la tribu Saint-Louis et qui bloque 15 000 résidents d'une communauté à majorité blanche. La population kanak de la Nouvelle-Calédonie est regroupée depuis la colonisation, on le rappelle, en 1853 dans des districts dans lesquels elles sont composées en tribus et les tribus disposent d'une personnalité morale. Elles sont reconnues comme telles depuis 1867, mais on est toujours là. Hein. La tribu de Saint-Louis, donc ça représente environ 1500 personnes, est connue pour être l'une des plus remontes. Pour contourner le blocus qu'imposent donc quelques-uns de ses membres, de la province sud, qui elle est une province loyaliste, a mis en place un coûteux système de navettes maritimes. Il dépense a priori environ 5 millions de francs pacifiques par jour, le franc pacifique étant une espèce de truc qui rappelle bien le passé colonial aussi, qui est la monnaie en cours, donc ça pourrait être 40 000 euros, 5 millions de francs pacifiques, pour organiser 300 rotations quotidiennes qui transportent les personnes du Mont d'Or à Nouméa. Mais surtout, l'État a décidé du bouclage intégral de la tribu de Saint-Louis. Depuis le 20 juillet, donc ça fait 2 mois, la population kanak est empêchée d'entrer et de sortir de la tribu sans autorisation car les forces de gendarmerie bloquent jour et nuit tout accès. La circulation automobile est interdite, il n'y a aucune navette, de type bus, etc. Évidemment, les habitants et habitantes de la tribu ne peuvent y entrer et sortir qu'à pied. Et en voulant se rendre dans un centre de soins, pour illustrer par exemple, situé à plus de 15 km de la tribu, une jeune mère s'est fait arrêter au barrage de gendarmerie du Tabor. Et pour être autorisée à le franchir pour se rendre à l'hôpital, les gendarmes lui ont demandé de présenter une preuve du fait qu'elle a eu un accouchement récent et en lui présentant le cordon ombilical du nouveau-né. Je n'ose, enfin, je sais pas si c'est besoin de qualifier ce genre de saloperie, quoi. Il ne s'agit pas d'une mesure actuellement, le fait d'avoir cloisonné toute cette tribu, il ne s'agit pas d'une mesure préventive qui est destinée à dégager la route territoriale, mais c'est en fait une punition collective qui est imposée aux habitants et habitantes de Saint-Louis parce qu'en fait, ils et elles constituent une tribu coupable, selon l'État, d'abriter en son sein des jeunes qui ont opté pour l'action armée et qui ne relèvent d'aucune structure identifiée. en riposte face à cette violence révolutionnaire, hein, dont on peut penser ce qu'on veut. Le haut-commissaire de la République, Louis Lefranc, et l'État ont fait le choix de rétablir outre-mer le principe de la responsabilité pénale collective aboli en France en 1789. Hein, c'était ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire avant 1789, enfin, cette révolution, nous sommes si fiers, on faisait ça, on faisait... des punitions collectives, et c'était dans la loi, c'était ça. Et c'est là qu'un exemple, en fait, hein, ce qu'on a cité tout à l'heure sur la tribu de Saint-Louis, hein, on a pu observer des punitions collectives du même type un peu partout en Kanaky lors des derniers mois, et ces méthodes d'un autre temps sont, hélas, celles qui ont été aussi, par exemple, transplantées en Algérie, hein, c'est comme ça que faisait l'armée française en Algérie aussi, les punitions collectives s'étaient beaucoup, beaucoup appliquées, un peu dans tous les territoires coloniaux. Voilà maintenant qu'elles ont donc été rétablies en Nouvelle-Calédonie. La population de Saint-Louis est parquée et bouclée dans sa réserve comme avant 1946. Et c'est l'un des actes, hein, qui révèle cette nouvelle guerre coloniale en cours. Hein, une guerre coloniale qui ne dit pas son nom. Évidemment, il s'agit de maintien de l'ordre à la française. Mais personne ne s'y trompe trop. On vous offre, après toutes ces bonnes nouvelles, une petite pause musicale.
Rubrique
Cronaca Internationale.
Et vous êtes toujours à l'écoute du Canu Info du vendredi. Et ce soir, peut-être que vous l'aurez compris, c'est pas forcément volontaire, mais toutes nos nouvelles locales sonnent internationales. et toutes nos nouvelles internationales sonnent locales. Et là, on va vous parler des liens qui unissent les polices françaises et brésiliennes, main dans la main pour se former à la violence. Et tout ça commence avec une photographie prise dans une caserne d'un bataillon de la police militaire brésilienne par un policier parisien, Steve L., qui pose fièrement devant un hélicoptère avec le drapeau de son unité à la main. La photo a été postée en juin 2022 par le compte Instagram de l'Amicale de la Compagnie de Sécurisation et d'Intervention de Paris, la CSI 75. Les CSI, c'est des variantes de la BAC. Elle a été likée par l'un des plus hauts responsables de la préfecture de police, le directeur de l'ordre public et de la circulation, un certain Jérôme Foucault, qui n'a rien à voir avec Michel. Le cliché est accompagné de cette légende. Stage au Brésil pour l'un des effectifs de la CSI 75, avec pour objectif de savoir patrouiller dans des milieux à haut risque, style favela. C'est parfait. D'autres photos témoignent aussi de ce stage et d'autres stages. En fait, les polices militaires propres à chaque État au Brésil, hein, sont pas des polices nationales, sont chargées de la sécurité publique. Elles comptent en leur sein des bataillons chargés des opérations spéciales qui accumulent les accusations de violence, d'exécution sommaire et de bains de sang. Le plus connu de ces bataillons, c'est le BOP, hein, ou BOP, je ne sais pas le prononcer en portugais, dont l'insigne représente une tête de mort plantée d'un poignard, vous l'avez peut-être déjà vu, sur fond de pistolet croisé. Donc il y a deux flingues au fond, un crâne et un poignard dans ce crâne. C'est une imagerie aussi très très appréciée de l'extrême droite, mais tout ceci n'est qu'un hasard. L'ex-président justement d'extrême droite, Jair Bolsonaro, au pouvoir donc de 2019 à 2022, avait fait de ses bataillons un emblème de sa politique répressive. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de la violence de ces bataillons, dans un rapport consacré au Brésil, l'Observatoire de l'usage mortel de la force en Amérique latine et dans les Caraïbes a recensé plus de 5600 personnes tuées en 2022 par la police brésilienne, même nombre en 2021 et près de 6000 en 2020. Donc c'est comme une police qui tue 6000 personnes par an, c'est des statistiques qui sont absolument délirantes. À titre de comparaison, on compte environ 1000 personnes tuées par an aux États-Unis et une trentaine ou une quarantaine en France. Donc bien sûr, la France, c'est un peu plus petit, mais c'est pas un rapport équivalent de 1 à 5. On est quand même plutôt vraiment vers des bains de sang, hein, quand même. Hein. La préfecture de police de Paris a indiqué à Libération que ce stage du fameux Steve L. s'inscrit dans, je cite, une mission d'échange sur le thème des techniques d'intervention. Un voyage au Brésil de 2 semaines, financé par les autorités brésiliennes et par le ministère de l'Intérieur français. Les liens entre la préfecture de police et le Brésil ne se limitent d'ailleurs pas à ce stage. Un an plus tôt, en mai 2021, des agents des polices militaires de Sao Paulo avaient, eux, été accueillis à Paris parce qu'on peut s'échanger des choses, notamment de la formation à des techniques d'intervention. Le cas de Steve L. et de la venue en France d'agents des bataillons des polices militaires de l'État de Sao Paulo n'est pas isolé, hein. À de nombreuses reprises, des unités d'intervention tricolores sont allées de l'autre côté de l'Atlantique au Brésil pour participer à des formations dans le cadre diplomatique de la coopération sécuritaire. La gendarmerie assure d'ailleurs publiquement et très fièrement, je cite, que le partenariat entre la police militaire de Sao Paulo et la France dure depuis 1906, donc on est quand même fiers d'un truc qui dure depuis 120 ans. Ils précisent pas s'il y a eu des ruptures à un moment, je sais pas, dans une certaine partie de l'histoire, mais avec l'arrivée de la première mission française qui est allée former des flics brésiliens, des policiers militaires brésiliens, donc il y a 120 ans. La police nationale revendique, elle, 30 ans de partenariat avec les milices violentes brésiliennes, hein, c'est quand même 4 fois moins que la gendarmerie. Et les liens entre ces unités brésiliennes et la police française prennent aussi des formes moins officielles que les stages comme celui de Steve L. À l'automne 2022, plusieurs membres des polices civiles et militaires brésiliennes, notamment du BOP dont je parlais précédemment, sont venus en France pour participer à des exercices communs avec parties de la police française. Aux côtés de collègues suisses et italiens qui étaient aussi présents, les Brésiliens ont été accueillis par des membres du RAID et du commandant parachutiste de l'air numéro 10, unité de l'armée française spécialisée dans la libération d'otages. Un truc qui se passe à peu près tous les jours, quoi. Et le programme de ces journées, c'était quoi? Eh bien, c'était un exercice dans la sarre de concert lyonnaise du Trabendo. On ne sait pas trop ce qui se passe dans cet exercice, mais c'était tout ceci nous ramène à Lyon, finalement. Un autre dans des TGV désaffectés sur un site exploité par l'entreprise Vinci dans l'Ain. Un autre encore dans des bus en Isère. Pour pratiquer le combat rapproché, la quarantaine d'hommes ont aussi pu utiliser les infrastructures du camp militaire de la Valbonne, c'est à peu près à 25 km d'ici. Et sur la photo de groupe qui conclut cette semaine de formation, eh bien, ils ont fait une très belle photo de groupe sur le toit d'une tour du quartier de la Part-Dieu, où on les voit, ces hommes en tenue noire, en treillis, avec des visages masqués ou floutés, qui tiennent des drapeaux et portent des tas de pages de leurs unités violentes, donc représentant diverses formes d'armes et de crânes. Cet échange international, par ailleurs, bénéficie aussi à des entreprises, et notamment une entreprise privée, la société Tribe Ops. Derrière ce nom et son symbole guerrier, donc le logo de cette entreprise, c'est un tomahawk et un crâne, toujours la fantasme du crâne, il y a un rapport un peu sympathique à ça. On trouve un Brésilien qui s'appelle Humberto Sampiano, qui revendique sur LinkedIn un passage dans la police et dans l'armée brésilienne, puis dans la Légion étrangère française pendant 20 ans. Par ailleurs, c'est les clips de promotion de cette boîte pour le rapprochement France-Brésil sont aussi produits par une entreprise qui s'appelle Black Fox Arts, derrière laquelle on retrouve à nouveau d'anciens légionnaires. Voilà, c'est formidable. L'imagerie d'une police violence face aux délinquants, véhiculée notamment par ces clips, mais aussi par les BOP, dont on parlait précédemment, à coup de vidéos extrêmement nerveuses vantant leurs opérations, s'invite parfois aussi sur les uniformes français. Ainsi, Franck Verrier-Coréard, que vous connaissez sans doute pas, mais il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence. Il a notamment écopé d'une interdiction définitive d'exercer lors de son dernier procès, mais a fait appel de la décision. Se mettait en scène avec l'insigne de l'unité du BOP, alors qu'il était en poste à la brigade anticriminalité, la BAC de Seine-Saint-Denis. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Des agents ont aussi été photographiés en train de porter le crâne du bataillon en civil devant le siège parisien de l'inspection générale de la police nationale en 2019. Ciao l'IGPN, toujours prête à sanctionner tout manquement, ou lors d'une intervention à Marseille la même année. Et donc contacté par Libération à nouveau à propos des échanges entre police française et brésilienne, le ministère de l'Intérieur leur a expliqué, je cite, attention, « Le RAID et le GIGN bénéficient d'une grande renommée au Brésil. De leur côté, les unités d'intervention spécialisées du Brésil font face à des phénomènes criminels d'une particulière intensité. » C'est pour ça qu'elle tue autant de gens. Le ministère explique que cette coopération a pour but de promouvoir, je cite, un règlement non létal des situations des crises, même les plus extrêmes. C'est toujours un peu magique quand le terme non létal apparaît, surtout quand on parle de telles unités. Et dans cette réponse, le ministère se borne en fait aux formations qui ont été organisées au Brésil et ne dit absolument rien à Libération des policiers militaires brésiliens venus en France, ni de leur violence, ni de leur nationalisme, ni de leur villérisme, ni de quoi que ce soit. Bref, tout le monde est à bonne école. Ces échanges entre unités de police violentes, on ne voit pas ce qui pourrait mal tourner. C'est un CAFU Info musical. On refait une petite pause et on revient.
quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et évidemment, c'est l'agenda, un agenda assez riche ce week-end à Lyon. Et on commence avec trois possibilités demain, le 21 septembre. Je ne sais plus si c'est le premier jour de l'automne ou le dernier jour de l'été. C'est peut-être aujourd'hui le dernier jour de l'été. Mais en tout cas, il y a une rencontre avec Nello Magalhaes à la Griffe. Donc Nello Magalhaes, c'est qui ? C'est l'auteur de Accumuler du béton, Tracer des routes, un ouvrage qui est paru aux éditions La Fabrique et qui porte en gros sur toute l'ingénierie du béton, ses impacts environnementaux délétères, les réglementations pour l'encadrer et le lien très très fort entre l'explosion de la production de béton, l'explosion de la production de déchets qui va avec et l'explosion de la production de routes. Moi, je recommande plutôt cet ouvrage parce que c'est rare pour une fois. Je l'ai lu. Et tout ça, ça se passe aux éditions La Fabrique, ça je l'ai déjà dit. Ça se passe demain à 15h à La Griffe. Alors, on rigolera un peu. L'annonce sur Rebellion précise que tout ça est accessible PMR. C'est très bien, mais ils sont toujours incapables de foutre un masque. En attendant, lisez Nello Magalhaes, Accumuler du béton, Tracer des routes, c'est vachement bien. Puis, allez en discuter demain à La Griffe, si vous le voulez.
Et ensuite, toujours demain, toujours à La Guillotière, soirée de soutien pour la boulangerie. C'est un squat ouvert en 2023 à la boulangerie à Villeurbanne, au 172 rue Yvonne Chanot. Il compte une vingtaine d'habitants. Après un procès en juillet 2024, on a gagné, ils disent, la trêve hivernale 2025. Ils ont maintenant besoin de thunes pour les travaux, des gros soucis de plomberie. Toute la thune récoltée ira aux travaux. Ça se passe à l'annexe, donc toujours à Guillotière, 27 rue Salmon-Reynard.
Absolument, le CG est toujours en place et il s'y passe plein de trucs, vous allez voir, continuez d'y aller, c'est super. Demain, toujours, tout ceci est quasiment faisable en parallèle, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez aussi vous rendre au Café Libertaire de l'UCL sur le droit à l'avortement et les droits reproductifs, avec une interrogation, sont-ils toujours menacés ? En effet, il s'est passé pas inaperçu pour personne la menace qui plane sur les droits aux États-Unis, en France. Alors, avec les noms qu'on nous annonce dans les ministères à venir, on n'est pas sorti des ronces, notamment sur la question de l'IVG. En Europe et plus généralement dans le monde, et donc au programme demain, présentation de la situation actuelle dans le monde, discussion collective. Et donc avec le rassemblement du 28 septembre qui porte aussi sur ces questions, ce sera l'occasion de préparer, de discuter des stratégies, des possibilités, des solutions et de comment se battre pour l'IVG. Et donc là, ça se passe comme d'habitude pour tous les trucs de l'UCL à la Plume Noire. C'est pas trop où c'est proche de la place Colbert, en tout cas, dans les pentes de la Croix-Rousse.
Et ensuite, pour la semaine prochaine, mardi le 24, il y a un rassemblement commémoration de la prise de possession de Kanaki. On a un sujet sur Kanaki juste avant. Ça serait un rassemblement et soirée projection le 24 à l'occasion de la commémoration de 170 ans de colonisation française qui s'était passée le 24 septembre 1853. Le rassemblement sera aussi suivi d'un événement à ECG à 19h30 avec des projections d'un film documentaire sur Eloy Macharo, figure emblématique de la lutte indépendante kanak. Et pour le rassemblement, j'ai pas mentionné, c'est 18h30 à Place Guichard, en 3e.
Dans le 24 septembre, donc mardi.
Voilà.
Et bien c'est tout pour l'agenda, vous retrouverez évidemment bien davantage d'informations sur rebellion.info. Quant à nous, on se pose toujours la même question.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP.
Cagnosco du vendredi.
Alors, pas très créatif ce soir. All Canuts Against Borders, parce qu'on a eu pas mal de discussions sur les frontières, la migration et la mort aux frontières.
Et pour celles et ceux d'entre vous qui parleraient un petit peu moins bien anglais, All Canuts Against Borders, ça veut dire tous les canuts contre les frontières.
Bien évidemment.
C'est la fin ?
C'est la fin.
Et bah écoutez, dans quelques minutes vous retrouvez Noise Pollution, on vous laisse un peu avec les bandes continues et nous on revient La semaine prochaine, évidemment, ce sera le 27 septembre, le vendredi à 19h, on sera là.
Salut. Bon week-end. 60% on the green full circle.